Toute pratique littéraire est en elle-même une pratique de l'existence, une expérience singulière de la conscience, du corps, de l'espace et du temps, qui se fait dans la langue même, bien davantage que dans les idées qu'un auteur semble manipuler ou que dans les événements qu'il peut nous raconter. Ainsi, dans ce grand édifice qui se bâtit au cours des siècles de notre littérature, dans chacun de ces grands moments, de ces nouveaux départs que vous nous racontez, Henri Van Leer, c'est chaque fois une saisie du monde caractéristique que développe un grand auteur. Et c'est aussi dans l'écart de cet auteur par rapport à ceux qui l'ont précédé que se construit cette histoire de la littérature. Aujourd'hui, donc, Bossuet.
La chair a quasiment disparu pendant les deux premiers tiers du XVIIe siècle. C'est pas particulièrement chez Malherbe, dans le « là, pour le dessert, troussez-moi cette cotte » que nous avons rencontré de la chair. Ni chez Descartes, ni chez Corneille, pas tellement non plus dans le corps pascalien, ni même chez Molière. Nous avons retrouvé avec lui le corps de Sganarelle, mais c'est un corps de la motricité, ce n'est pas vraiment un corps charnel. Or, tout d'un coup, nous ouvrons les méditations sur l'évangile de Bossuet, et nous trouvons ceci, dans le transport de l'amour humain, qui ne sait qu'on se mange, qu'on se dévore, qu'on voudrait s'incorporer de toute manière, et comme disait ce poète, enlever jusqu'avec les dents ce qu'on aime pour le posséder, pour s'en nourrir, pour s'y unir, pour en vivre. Tout d'un coup, il y a le transport. Et le transport est un mouvement du corps entier, avec ses pesanteurs. Il va souvent parler de pesanteur, d'ailleurs. Pour lui, quand il veut dire ce que c'est que le péché, c'est une modalité particulière de la pesanteur, dans le transport de l'amour humain, qui ne sait qu'on se mange. Et on vient à l'acte de chair, le plus immédiat, qu'on se dévore. Il y a là derrière toute une pulsion immense, qu'on voudrait, ah oui, mais quel vouloir, qui est bien loin du vouloir de Corneille ou de Descartes, qu'on voudrait s'incorporer de toute manière, dans toutes les dimensions de l'espace, somme toute, et par tous les moyens. Et comme disait ce poète, c'est-à-dire Lucrèce, évidemment, enlever jusqu'avec les dents ce qu'on aime pour le posséder. Ah oui, il est certain que toute la philosophie cartésienne nous a mis dans une attitude de possession. Pascal nous a dépossédés. Mais Descartes est possessif. Mais cette possession ici est une possession des craintes. Pour le posséder, pour s'en nourrir, pour s'y unir, pour en vivre. Évidemment, cette possession du corps entier est particulièrement agissante dans l'organe de la bouche, mais aussi dans le larynx, dans le pharynx. Et c'est par un même mouvement que Bossuet va être cet être d'étreinte et un orateur. Et dans les élévations sur les mystères, on trouve ceci. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Dévorez, engloutissez. Non une partie, non un morceau, mais le tout. Et de nouveau dans les méditations sur l'évangile, cette espèce de réalisme réalissime qui est, dans les querelles avec les protestants, alors, la réaction de Bossuet, c'est, il a dit, ceci est mon corps, c'est donc son corps. Dans une sorte de confiance ontologique et de confiance langagière presque sauvage. Et il y a un titre dans le traité de la concupiscence qui est déjà tout un programme, que la concupiscence de la chair est répandue par tout le corps, et par tous les sens. Voilà donc ce corps qui existait quelque part, bien avant, qui se trouvait dans la Bible, et qui ressurgit avec toute sa force biblique. Et tout d'un coup, dans le traité de la concupiscence, il est en train de dire qu'il faut se défier de ce monde qu'il va appeler justement le monde, la chair du monde. Mais c'est dans les termes suivants, cette femme qui, dans les proverbes, la Bible, vante les parfums qu'elle a répandus sur son lit, et la douce odeur qu'on respire dans sa chambre, pour conclure aussitôt après, enivrons-nous de plaisir et jouissons des embrassements désirés, ça c'est justement une citation biblique, montrée par son discours à quoi mènent les bons sentiments. Donc bien entendu, il s'agit d'une problématique du péché, une problématique de l'ascétisme, mais c'est un ascétisme qui embrasse ce qu'il repousse. C'est bien le Dieu à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau, auquel alors Bossuet va pouvoir s'identifier, exactement comme Descartes s'est identifié au Dieu cartésien. Et comment va-t-il faire ça? Eh bien, en créant la paraphrase. La paraphrase divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont des paroles dites divines. Que Bossuet les traduit dans son langage, il les bossuétise, si on veut. Et quand il a fait cette opération-là, il ajoute son propre discours, mais en l'intriquant absolument avec ce discours divin. Écoutons plutôt. C'est dans le sermon sur l'ambition, et tout d'un coup, il veut montrer ce que c'est que la puissance. Comment va-t-il évoquer la puissance d'un royaume ? Assure, dit ce saint prophète. Toute une prise de hauteur. Assure, dit ce saint prophète. Il a senti tout ce qu'il y avait dans le mot. C'est élevé comme un grand arbre, comme les cèdres du Liban. Le mot arbre est un des mots les plus extraordinaires de la langue française et va courir à travers toute la littérature française jusqu'à aujourd'hui, bien entendu. Mais donc, il l'exploite au maximum ici. D'abord, dans cette espèce d'élévation, c'est élevé comme un... Et alors, la nasale qui précède, évidemment, qui est... Il y a un, mais grand, la nasale de A. Et puis, le A lui-même, soutenu par R, par B, et encore par un R. Un grand, bien sûr, le R déjà précédent dans grand et dans le G de grand. Un grand arbre. Alors, avec ce, en même temps, ça serait trop fermé pour Bossuet. Donc, il faut l'étendre et l'étendre en hauteur, comme les cèdres du Liban. Nous savons déjà la fortune de Com à travers Malherbe et les autres. Le ciel l'a nourri de sa rosée. Nous retrouvons cette nourriture, maintenant tout ce travail de la terre. Justement, la terre l'a engraissée de sa substance. Les puissances l'ont comblé de leurs bienfaits, et il suçait de son côté le sang du peuple. Or, qu'est-ce qui vient de se passer? Vous croyez que c'est du discours de Bossuet? Pas du tout. La terre l'a engraissé de sa substance, c'est dans la Bible. Et puis lui glisse son propre discours, entre parenthèses. Les puissances l'ont comblé de leurs bienfaits, et il suçait de son côté le sang du peuple. Pour que tout ça prenne toute sa force, imaginons ce discours tenu devant Louis XIV, ou des gens très proches du roi. Ça suppose d'ailleurs un incroyable toupet. Ça suppose un courage très, très solide, très lourd, comme Bossuet lui-même. Mais je viens d'ailleurs de dire une erreur, je l'ai fait un peu exprès, en disant « il a mis entre parenthèses ses propres pensées, la terre l'a engraissée de sa substance, parole divine, et puis les puissances l'ont comblée, parole humaine. » Eh bien, pas du tout. C'est ce qu'on fait dans nos éditions. Mais si on regarde le manuscrit, pas question de parenthèse. Donc, entre le discours divin, le discours de la Bible, et le discours de Bossuet, il y a continuité absolue. Et si vous regardez son écriture, c'est une écriture dans laquelle il n'y a quasiment pas de ponctuation, il n'y a quasiment pas de séparation entre les mots. Tout ça est absolument rond, mais d'une rondeur qui avance, qui progresse, qui agglutine absolument tout sur son passage pour finir dans une totalisation charnelle absolue. Alors comment est-ce qu'il s'y reconnaissait? Eh bien par le rythme, sans doute, Et nous nous y reconnaissons également par le rythme. C'est tellement rythmé du dedans qu'il peut se payer le luxe de ne même pas mettre de parenthèse pour distinguer le discours humain et le discours divin ou supposé divin. Ça continue. C'est pourquoi il s'est élevé superbe en sa hauteur, beau en sa verdure, étendu en ses branches, fertile en ses rejetons. Et de nouveau, c'est la Bible, ça. C'est la traduction. Il traduit, il fait passer dans ses propres veines, dans sa propre chair, tout ce texte. Imaginons un instant que nous ayons eu une traduction de la Bible faite par Bossuet. Nous aurions eu plus fort que les Anglais encore avec leur Bible de King James. Les oiseaux faisaient leur nid sur ses branches, les familles de ses domestiques. Donc on comprend à chaque fois, on va glisser, on va faire l'application aux gens qui sont là devant vous. Ça peut être Louis XIV, ça peut être les grands-ducs. Les oiseaux faisaient leur nid sur ses branches, et puis on vous souffle comme ça, les familles de ses domestiques. J'ai pas le temps de compter les syllabes, mais on voit, il y a une différence très très nette entre les deux discours. Les peuples se mettaient à couvert sous son ombre. De nouveau glissé comme en aparté, un grand nombre de créatures, et les grands et les petits étaient attachés à sa fortune. Parce qu'attention, les apartés sont d'une force rythmique extraordinaire. Un grand nombre de créatures, et puis d'un coup, cette accumulation, nous, et les grands et les petits étaient attachés à sa fortune. Ni les cèdres, ni les pins, c'était les plus grands de la cour, ne l'égalaient. Et alors toute la force, évidemment, du latin, habietes non adequa verum summitate meus, aimulata sunt eum omnia ligna voluptatis, quae erant in paradiso Dei. Pour le dire en passant, vous voyez avec quelle facilité en latin on peut se faire comprendre de 2000 personnes. Je n'ai pas donné plus de voix pour dire ce texte latin que pour dire le texte de Bossuet qui précède, et simplement en laissant faire, on obtient un volume de voix immense. Autant que ce grand arbre s'était poussé en haut, autant semblait-il avoir jeté en bas de fortes et profondes racines. Je crois que cette fois-ci, le fantasme de Bossuet s'accomplit, il s'enrichit. Il y avait d'abord, il y a l'embrassement, il y a l'étreinte que nous avons vue dans le transport de l'amour humain. Mais tout d'un coup, cette fois-ci, cet arbre va vers le haut. Mais en même temps qu'il va vers le haut, autant que ce grand arbre s'était poussé en haut, il va en même temps vers le bas. Autant semblait-il avoir jeté en bas. Il ose encore ces phrases françaises qui sont presque pas justes. Hein, moi, je dis vers le bas. Mais lui, il a le toupet de dire jeté en bas. De fortes et profondes racines. Alors, une fois qu'on en est là, bien sûr, il y a une sorte d'optimisme total. Tout est ressaisi. Mais il y a quand même une chose, il n'y a rien à faire. Il y a la mort qui reste là. Hein, rappelez-vous, le sermon sur la mort, qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans, puisqu'un seul moment les efface. Multipliez vos jours comme le cerf que sa fable fait vivre durant tant de siècles. Multipliez dans cet espace qui paraît immense honneur, richesse, plaisir. Bon, et ici ça devient, voilà une grande fortune. Un siècle n'en voit pas beaucoup de semblables, mais voyez sa ruine et sa décadence. On disait encore ruine et sa décadence. Parce qu'il s'est élevé superbement, et qu'il a porté son fait jusqu'au nu, et que son cœur s'est enflé dans sa hauteur. Pour cela, dit le Seigneur, je le couperai par la racine, je l'abattrai d'un grand coup, et le porterai par terre. De nouveau, c'est tout blanc, et le porterai par terre, porté par terre. Il viendra une disgrâce, et il ne pourra plus se soutenir en aparté. Ceux qui se reposaient sous son ombre se retireront de lui, de peur d'être accablés sous sa ruine. Il tombera d'une grande chute, on le verra de tout son long coucher sur la montagne, fardeau inutile à la terre. Vous croyez qu'on est au bout? Non. Proitienteum super mantes. Le latin donnant à chaque fois la dernière respiration ultime. Évidemment, quand on a ce fantasme-là, que va-t-on faire? On va être un politique étreignant la totalité de l'État et un historien étreignant la totalité de l'histoire. Étreignant l'État, ben, je vais étreindre la France. Et la France, à ce moment-là, c'est en même temps quoi? Pour obtenir cette unité vitale, cette circulation, c'est le roi. Pour comprendre ce que c'est qu'un roi, je viens de vous rappeler d'ailleurs qu'il parle en face de ce roi, en même temps qu'il va être le précepteur du dauphin. Mais, pour comprendre ce roi, il faut savoir ce qu'il opère à l'époque. Il y a un poème de Corneille qui me paraît caractéristique. C'est au moment de la construction du canal du Languedoc, qui va joindre donc la Méditerranée et l'Atlantique. Et voilà ce que dit Corneille. La Garonne et la Taxe. La Garonne, c'est du côté de l'Atlantique. La Taxe, c'est l'Aude, donc c'est du côté de la Méditerranée. Dans leurs grottes profondes, soupiraient de tout temps pour voir unir leurs ondes et faire ainsi couler par un heureux penchant les trésors de l'aurore aux rives du couchant. Ça va? Opposition de la nature à tout ça. Mer, à des vœux si doux, à des flammes si belles, la nature attachée à ses lois éternelles pour obstacle invincible, opposait fièrement des monts et des rochers l'affreux enchaînement. Et voici la troisième partie. France, ton grand roi parle. Et ses rochers se fendent. La terre ouvre son sein. Les plus hauts monts descendent. Tout cède. Et l'eau, qui suit les passages ouverts, le fait voir tout puissant sur la terre et les mers. Voilà ce que c'est que le pouvoir royal, à ce moment où il n'y a pas d'information. Nous sommes habitués à voir un pays en connexion, qui a un système nerveux informationnel, qui est la radio. Non, là, il faut envoyer des gens de tous les côtés. Et le roi est donc cette espèce de France qui devient une âme. Il est l'âme d'un pays, et ce pays est véritablement son corps. Or, nous savons que quand il s'agit de corps, Bossuet est imbattable. « Je n'appelle pas, majesté, cette pompe qui environne les rois. » C'est bien entendu dans la politique tirée de l'Écriture sainte. Ou cet éclat extérieur qui éblouit le vulgaire, c'est le rejaillissement de la majesté, et non pas la majesté elle-même. La majesté est l'image de la grandeur de Dieu dans le prince. Nous sommes habitués à tout ça avec Descartes, d'ailleurs. Il y a cette espèce de, il y a Descartes, et puis il y a encore Dieu qui d'une certaine façon, vient résonner dans Descartes. Dieu est infini, Dieu est partout. Le prince, en tant que prince, n'est pas regardé comme un homme particulier. C'est un personnage public. Hannah Arendt a très bien montré comment, donc, chez les anciens, il y a le privé est privatus, donc il lui manque quelque chose. C'est le public qui va de soi. Donc, le prince est le personnage public. Tout l'État est en lui. Ah ben voilà, il le dit. Je ne veux pas chercher plus loin. La volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne. Comment Dieu est réuni toute perfection et toute vertu? Ainsi, la puissance des particuliers est réunie en la personne du prince. Considérez le prince dans son cabinet. De là partent les ordres, qui font aller de concert les magistrats et les capitaines, les citoyens et les soldats, les provinces et les armées, par mer et par terre. C'est l'image de Dieu qui, assis dans son trône au plus haut des cieux, fait aller toute la nature. Très joli à nouveau. Fait aller. C'est toujours d'une simplicité, d'une intensité corporelle, charnelle, énorme. Quel mouvement se fait, dit saint Augustin, au seul commandement de l'empereur? Il ne fait que remuer les lèvres, dit toujours saint Augustin. Il n'y a point de plus léger mouvement, et tout l'empire se remue. C'est, dit-il, l'image de Dieu qui fait tout par sa parole. Il a dit, et les choses ont été faites, il a commandé, et elles ont été créées. Et puis il continue, d'ailleurs, les méchants ne parviennent pas à se dissimuler. Les méchants ont beau se cacher, la lumière de Dieu les suit partout. Sont braves à les atteindre jusqu'au haut des cieux et jusqu'au fond des abîmes. Ainsi Dieu donne aux princes de découvrir les trames les plus secrètes. Il a des yeux et des mains partout. Quand on a ainsi, évidemment, des yeux et des mains partout, on doit, pour finir, avoir une saisie globale, globalisante de l'histoire. Et ce sera un des grands achèvements de Bossuet, ce sera de faire ce discours sur l'histoire universelle où d'abord il présente les époques, et puis évidemment, c'est un évêque, donc la suite de l'Église, et enfin la troisième partie qui pour nous est la plus importante et qui est les empires. où tout d'un coup il se rend compte que dans l'histoire humaine, il y a eu une vingtaine, une trentaine de grands organismes qui ont eu quelque chose comme une enfance, une adolescence, une maturité et une mort. Et il va essayer justement de nouveau d'étreindre cela, d'étreindre frontalement et d'autre part, selon son habitude, de pousser en haut et en même temps de pousser en bas. Donc après avoir dit à son dauphin, la première époque vous présente d'abord, c'est la première phrase, un grand spectacle, c'est bien Bossuet ça, tout est spectacle, mais tout est spectacle récupérable dans la parole, qui est la parole de Bossuet, identique pour finir à la parole divine et à la parole prophétique. Oui, n'oublions pas ça, le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui dit d'avance, mais c'est d'abord quelqu'un qui dit devant quelqu'un d'autre. Et par là, il est exactement en situation prophétique, il se trouve devant le colossal pouvoir de Louis XIV qui peut envoyer par exemple M. de Montespan en prison quand M. de Montespan devient dérangeant et qui bien entendu peut envoyer un évêque au bout du quai simplement d'un coup du petit doigt. Et il se trouve là-dedans et il tient et rappelle toutes les choses fondamentales. Donc il est vraiment le prophète, celui qui va fenaille pro. La première époque vous présente d'abord un grand spectacle. Dieu qui crée le ciel et la terre par sa parole et qui fait l'homme à son image. Et voici une parenthèse, là j'ai pas été vérifié dans le manuscrit. En du monde 1 avant Jésus-Christ 4400. Et ça évidemment, ça vaut la peine que nous nous arrêtions. Parce que quand on fait de l'histoire, il faut toujours essayer d'arriver à voir ce que les gens donc savaient. Mais aussi, bien entendu, pour les comprendre, il faut bien voir ce qu'ils ne savaient pas. Et donc, toute la parole de Bossuet, comme celle d'ailleurs de Descartes et même, sans doute, de Pascal et de tous les autres, toutes ces paroles sont possibles et d'autre part intelligibles que si, par exemple, on se rend compte que pour Bossuet, il se trouve dans un monde de 6000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ et, bon, 2000 ans après, enfin, disons, 1600 ans après. Donc, un monde délimitable. Et que je puis vraiment étreindre dans ma paraphrase divine. Mais alors, allons maintenant à ce qui va nous intéresser. Il parle au dauphin et lui dit, mais ce qui rendra ce spectacle plus utile et plus agréable, ce sera la réflexion que vous ferez non seulement sur l'élévation et sur la chute des empires. Vous voyez à quel point un être humain a toujours exactement le même fantasme qu'on retrouve jusque dans le dernier de ses mots. C'est de nouveau l'élévation et sur la chute des empires, mais encore sur les causes de leur progrès et sur celles de leur décadence. C'est toujours bien la même cadence et décadence que saisit Bossuet, mais qui va maintenant l'amener à une vue causale. Et pour nous, d'ailleurs, c'est peut-être tout à fait déroutant. Parce que pourquoi a-t-il cette vue causale? Précisément parce qu'il croit à la providence. Et c'est l'idée qu'il y a une providence, donc un être qui va étreindre l'histoire, qui va la concevoir en quelque sorte dans sa totalité, qui fait que, pour lui, l'histoire doit donc être intelligible. Et il est remarquable de faire bien voir que Vico, 20 ans après, enchaînant peut-être sur la pensée de Bossuet, va avoir exactement la même vue. Si Vico dit « nous pouvons faire une philosophie de l'histoire », c'est parce que, dit-il, il y a une providence. Donc, s'il y a une providence, l'histoire sort d'une intelligence, donc elle est intelligible. Et comme nous sommes, dit Vico, les agents de cette histoire, nous pouvons arriver à saisir cette intelligibilité. Et dit Vico, ça va nous donner un divin plaisir. Ce sera le siège pour nous d'un divin plaisir. Et chez Bossuet, c'est la même chose. Cette espèce de divin plaisir à se dire, la chose qui apparemment est la plus insaisissable, qui justement dépend de probabilités sur lesquelles on n'a pas de contrôle, rien n'a un contrôle, le nez de Cléopâtre s'il eût été plus court. Eh bien, cependant, dit-il, quand on veut voir les choses sur le long terme, on voit qu'il y a là-dedans un dessin qui a une certaine intelligibilité, et pour lui, bien entendu, dans son cadre idéal, cette intelligibilité est divine, elle est providentielle. Alors, maintenant que le corps, et sa chair surtout, la chair du corps, ont été retrouvés, nous allons pouvoir aller vers Racine, mais il est quand même intéressant de se rendre compte qu'au moment où Bossuet écrit, vit ce personnage tellement éclairant pour les dessous ou les entours du XVIIe siècle, et qui est Antoinette Bourignon, c'est-à-dire la mère des croyants, c'est-à-dire cette femme qui voulait convertir les êtres autour d'elle, mais qui, chaque fois qu'elle en convertissait un, avait le sentiment qu'elle l'avait enfanté charnellement, et d'ailleurs, pour l'amener ainsi à ce qu'elle appelait son salut, elle avait subi jusque dans son corps une réelle, une véritable grossesse. Nous nous trouvons donc dans une redécouverte de la chair dans ce qu'elle a de plus bourgeonnant, de plus germinatoire, de plus secret, de plus antérieur aussi, et qui va être racinien, mais quand même, terminons encore par Bossuet qui a tellement senti ces dimensions qu'il va les retrouver jusque dans cet antérieur qui est le rêve, et c'est de nouveau, je crois, dans les méditations sur l'Évangile, dans le temps du repos et dans le lit, il y tient décidément à ce fameux lit, et dans le lit où on répare ses forces par le sommeil, le trouble nous suit. Les songes pendant la nuit changent nos pensées. Nous goûtons durant un moment un peu de repos qui n'est rien. Et tout d'un coup, nous vient des soins. Comme dans le jour, par les songes. On est troublé dans les visions de son cœur, comme si l'on veut nouer d'éviter les périls d'un jour de combat. Dans le temps où l'on est le plus en sûreté, on se lève comme en sursaut. Et on s'étonne d'avoir eu pour rien tant de terreur. Je crois que nous sommes déjà dans Racine.